mimétiquement vôtre, voir le monde avec René Girard.
Une émission proposée par Jean-Louis Salasque.
Cette semaine, nous entendrons la voix même de René Girard dans une interview réalisée par Raphaël Enthoven en 2004 pour France Culture.
Vous savez, il y a un moment dans les évangiles, les trois synoptiques, où le Christ demande à ses interlocuteurs, juste avant la Passion, que signifie cette parole ? Il cite un psaume qui dit « La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, la pierre de fête ». Autrement dit, la pierre rejetée, exclue du bâtiment, est devenue la partie, ce qui soutient le bâtiment dans son ensemble. Alors, il est bien évident qu'il y a là une définition du rôle de la victime, de l'exclu, dans la construction de toute communauté.
Et du religieux, par contre,
du religieux,
du transcendant.
C'est ça. C'est-à-dire, la phrase s'applique aussi bien à l'archaïque qu'au biblique et aux chrétiens.
Donc, c'est une société phrase contemporaine avide de chercher un sens ailleurs qu'en elle-même.
C'est une phrase colossale. Mais ni les théologiens, ni les anthropologues n'en ont jamais parlé. Et ils ne peuvent pas, parce qu'à mon avis, on ne peut en parler qu'à partir de la thèse de la victime collective. Parce que peut signifier se rejeter par les bâtisseurs ? Les hommes sont les bâtisseurs dans la mesure où ils ont besoin d'une culture. Et le geste constructeur par excellence est celui de rejeter cette pierre, de n'y faire aucune attention. Et voilà qu'elle se retrouve au fait du bâtiment.
Est-ce que c'est le fait de la jeter ou est-ce que c'est la forme de la pierre ?
C'est le fait de la jeter dans ce sens qu'il s'agit du bouc émissaire. La métaphore, c'est à nous de l'interpréter. Mais jamais aucun théologien, jamais aucun commentateur de l'Évangile n'a même essayé d'expliquer cette phrase. Alors, le fait que la théorie mimétique explique complètement cette phrase me paraît prodigieux et m'entraîne à dire « le christianisme n'est pas ce que l'on pense ». Il a un rapport avec les communautés humaines que nous ne connaissons pas et qui n'a rien de commun avec ce que les hommes disent sur son caractère fantaisiste, etc. Dans le grand chapitre apocalyptique des synoptiques, chapitre 24 de Marc, il y a cette phrase absolument colossale « là où se trouve le cadavre, les vautours se réuniront ». Alors, la Bible de Jérusalem, là, a une petite note, parce que se dit le lecteur est quand même un peu interloqué par cette phrase étrange, qui dit « proverbe palestinien ». Aucune explication. Qu'est-ce que ça veut dire ? Là où est le cadavre, le vautour se réunit. La culture et l'exploitation de ce cadavre. Donc la métaphore des vautours qui dévorent peu à peu ce cadavre est absolument essentielle et ne peut se rapporter qu'à ce dont nous parlons.
Mais René Girard, est-ce qu'il y a un lien à faire selon vous entre ce congrès de vautours autour d'une dépouille, donc qui fait qu'ils se réunissent autour d'elle et que par là même les vautours cohabitent ? Est-ce qu'il y a un lien à faire entre ça et, par exemple, le geste arbitraire de Créon qui choisit de condamner l'un des deux frères, donc Polynice, et d'élever l'autre au rang de héros, ça pour apaiser la furie thébaine
De façon arbitraire. La politique, c'est ça.
Donc la politique reconduit le schéma du bouc émissaire.
La politique reconduit le schéma. Mais je pense que la phrase en question, les vautours, parle du monde moderne, qui est une décomposition du mécanisme victimaire. Et donc, il y a des traductions qui disent les aigles au lieu des vautours. Mais je crois que le terme vautour est vraiment le terme propre là. Et je pense qu'il y a quelque chose de négatif dans l'appellation de vautour. Nous sommes une culture de vautours aujourd'hui qui vivons sur des restes de culture que nous déchirons. La phrase a une puissance évocatrice absolument fantastique qui n'a jamais été dégagée. Ou alors une autre phrase que je cite malgré tout, parce que les évangiles sont pleins, qui ne sont jamais expliqués. Ne jetez pas vos perles aux cochons, car ils se retourneront contre vous et vous déchireront. C'est une phrase sur la foule, et c'est une phrase extraordinaire si on se met à en faire l'exégèse.
Mais en même temps, effectivement, vous parlez de la société moderne, on peut étendre les méthodes du désir triangulaire au-delà du champ traditionnel d'application, en l'occurrence au-delà du religieux, et étendre donc cette anthropologie à la question, par exemple, de la société de consommation, dont vous dites qu'elle est un système d'échange de signes au lieu d'être un échange d'objets réels.
Mais je dirais que cette extension est tout à fait normale. Enfin,
mais la société de consommation
au religieux, c'est une extension suffisante justement pour comprendre tous ces phénomènes.
Oui, mais la société de consommation, dites-vous, le monde moderne peut se définir comme une série de crises mimétiques toujours plus intenses, mais qui ne sont plus susceptibles d'être résolues par le mécanisme du bouc émissaire. Donc nous échappons désormais à la logique que vous décrivez ?
Nous échappons dans la mesure où nous en savons trop. Nous faisons semblant de ne pas savoir. Mais la preuve que nous savons, c'est que nous comprenons l'expression « bouc émissaire ». Donc il y a des formes de savoir sous-jacent à l'ignorance officielle dont nous faisons preuve. Nous comprenons très bien le jeu des boucs émissaires. Nous les utilisons, la politique, les trois quarts de la politique consistent à trouver la bonne victime.
On voit très bien, René Girard, chez vous, dans quelle mesure l'humanité, dites-vous, est fille du religieux. Mais en même temps, vous dites, ma foi chrétienne entrave la diffusion de la théorie mimétique. Comment votre foi chrétienne peut-elle s'opposer à la théorie mimétique et en entraver
la diffusion ? Non, elle ne s'oppose pas. Ce que je veux dire par là, c'est que je donne une excuse trop facile à tout le monde. Où tout le monde dit, René Girard dit qu'il fait de la science. Mais de toute évidence, tout ce qu'il dit est l'expression de sa foi. Autrement dit, on exclut le religieux de la pensée. Si vous voulez, cette exclusion est fondatrice du système intellectuel et spirituel que nous appelons la laïcité, etc. Si vous regardez la plupart des gens, derrière tout ce qu'ils disent, etc., en définitive, derrière, il y a un choix religieux. Et d'ailleurs, je ne dis pas du tout que la thèse mimétique démontre scientifiquement le religieux. Ce que je dis, c'est qu'elle en dit trop long sur la thèse du bouc émissaire pour être l'insignifiance que présente l'attitude vis-à-vis du religieux qui est celle de Voltaire, d'Auguste Comte, etc. Le religieux comme explication déficiente de la nature en attendant le scientifique. Comme si l'homme était toujours déjà dans une volonté de science qui n'arrive pas à s'exprimer et qui commençait par le religieux.
Autrement dit, le religieux occuperait la place de nos mystères et de ce que nous n'expliquons pas encore.
Oui, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle aussi le dieu des lacunes en anglais, the god of the gaps. N'est-ce pas, le religieux, c'est ce qui permet d'expliquer ce qui n'est pas encore expliqué par la science. Mais une fois que tout est expliqué par la science, le problème se repose à ce niveau-là. Parce que cette science-là nous parle peut-être de la façon dont Dieu fonctionne dans le réel. C'est pourquoi aujourd'hui, plus les lacunes sont comblées, plus la question du religieux va se poser à un autre niveau. Autrement dit, on peut toujours être athée et on peut toujours être pour Dieu. Il n'est pas question, en termes scientifiques, de déterminer la croyance.
Donc le degré de croyance n'est pas fonction de notre ignorance.
On a toujours raison d'être religieux ou de ne pas l'être. Où il y a toujours autour de vous, dans l'univers intellectuel qui est le vôtre, assez de raisons pour être ou l'un ou l'autre. Et aucune raison absolue de choisir celui-ci plutôt que l'autre. Tout ce que je dis, c'est à partir du moment où on voit que le schème du bouc émissaire et le schème mimétique de la culture est parfaitement défini dans le Nouveau Testament, on ne peut plus considérer que c'est une farce, que c'est une invention grossière, etc. On est obligé de le prendre au sérieux sur le plan scientifique. Sur le plan anthropologique, il nous donne une anthropologie beaucoup plus vraie que celle sur laquelle nous vivons. Mais je ne dis pas, bien sûr, que la thèse mimétique démontre la vérité absolue du religieux. Je dis, on ne peut plus le traiter comme on le fait.
On ne peut pas considérer la science comme cette lumière qui se répandrait sur l'obscurité dont la religion aurait besoin pour briller.
Et puis surtout, on ne voit pas que la science s'est complètement transformée et la science est essentiellement à tout historiciser. Par exemple, aujourd'hui, le Big Bang, vous avez des savants chrétiens ou juifs, etc., qui voient la création dans le Big Bang. C'est la création du temps et de l'espace, et nous sommes dans un univers temporel. Et si nous croyons...
Qui date l'origine du monde.
Voilà. Par exemple, Marx croyait en l'éternité du monde. Mais nous savons très bien aujourd'hui que si le monde était éternel, il n'y aurait pas de soleil. Le soleil serait éteint depuis une éternité. Puisque le temps est un éternel, le combustible qu'est le soleil serait éteint. Autrement dit, l'éternité du monde, la thèse parménidienne ou la thèse...
Non créationniste,
c'est impossible.
Autre passerelle entre le triangle mimétique et la découverte du religieux, dans la violence et le sacré, c'est l'hypermimétisme. Vous dites, quelqu'un d'hypermimétique est mieux placé pour se reconnaître manipulé par un désir qui n'est le sien qu'en apparence. C'est proche, dites-vous René Girard, de la possession démoniaque dans les évangiles. Donc on passe de Swann et Odette à la possession démoniaque, à la mania platonicienne.
Voilà,
presque.
Parce que qu'est-ce que la possession démoniaque ? C'est le fait d'être envahi par la personnalité d'un autre. Et si vous regardez les phénomènes de possession tels qu'ils sont présentés dans les films de Jean Rouch ou ces choses-là, vous voyez très bien que c'est un système d'imitation poussé à un degré extraordinaire. On sait que dans certaines sociétés africaines, il y avait par exemple celui qui était possédé par la sentinelle à la porte de la caserne anglaise, qui était là, et il jouait inconsciemment le rôle de cette sentinelle. Alors on voit que la possession peut s'expliquer en termes d'imitation tout à fait hystérique.
René Girard, vous dites, vous n'aimez pas les sceptiques. Vous n'aimez pas les sceptiques, et c'est très bizarre d'ailleurs parce que vous les aimez pas parce que vous les trouvez lâches. Qu'y a-t-il de plus rassurant que la foi ?
La foi, d'abord, c'est la foi. Une des erreurs du monde actuel, c'est de croire que le religieux, c'est la foi. Le religieux, c'est la foi dans le christianisme. Autrement dit, ça veut dire que s'il y a foi, il peut y avoir manque de foi. Mais dans un univers archaïque, il n'y a pas du tout de foi. Vous voyez, la foi ne joue absolument aucun rôle. On se trouve placé devant des phénomènes tels qu'on est obligé de recourir à l'interdit et au sacrifice pour essayer de s'en prémunir. Mais il n'est pas question de croire en quoi que ce soit. La problématique de la foi est la problématique seulement des religions monothéiste où Dieu ne se manifeste pas par sa violence. Et par conséquent, est douteux, parce qu'on vit dans un univers de violence.
C'est Cioran qui disait « Quel dommage que pour en venir à Dieu, il faille en passer par la foi ».
Oui, mais c'est pas vrai dans la plupart des univers. 99 centièmes du religieux est un religieux qui n'a rien à voir avec la foi et qui a à voir avec la violence qui vous tombe dessus comme la massue et qui sera forcément interprétée de façon sacrée.
C'était donc René Girard, interviewé par Raphaël Enthoven. Merci de votre écoute. À notre prochaine rencontre.